Vous écoutez Le Palmarès sur le choc.ca avec Estelle Grignon, votre animatrice, journaliste, directrice musicale, chroniqueuse, autrice par moment et top modèle Instagram. Et cette semaine, on a une très grosse émission avec deux artistes que j'aime énormément. Plus tard, on recevra mon ancien patron avec le groupe Of Course, qui venait nous parler de l'album Montréal Bagarre 2 qui est sorti plus tôt ce printemps. Mais juste avant, on va parler d'un album qui est sorti il y a encore moins longtemps, il y a à peine quelques jours. L'album Lesbienne Woke sur l'autotune de Calamine, qui est avec nous en studio. Allô?
Salut!
Ça va bien?
Comment ça va, Estelle? Ça va super bien, toi?
Ça va très bien. Très contente de te recevoir en studio, de te donner ton baptême de choc, je pense, en fait.
Mon baptême? Je me suis même presque perdue en m'en venant. Là. C'est presque une honte.
Note aux prochains artistes, vous avez le droit de me texter, de me demander de venir vous chercher. C'est correct. Je me souviens, l'année dernière, une de mes premières émissions du Palmarès, on attendait une artiste qui n'arrivait pas. Fait que là, ma collègue et moi, parce que je faisais l'émission à deux à l'époque avec Laurence Tachereau, a.k.a. Low Cash, on a juste comme improvisé l'émission. On était comme, ben yes, on va faire ça, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Puis éventuellement, à comme 10 minutes, la fin de l'émission, elle débarque, puis... Je me suis perdu. Je suis là. On a fait l'entrevue, bing bang, à la toute fin de l'émission. J'ai comme pas la nommée pour pas... Je sais pas, j'espère qu'elle pourrait peut-être un peu honte de tout ça, mais c'est vraiment incroyable comme entrevue. Mais voilà, tu es là avec nous en ouverture d'émission, en entrevue exclusive avec le choc.ca pour nous parler de Lesbienne Woke sur l'autotune, qui est ton deuxième album. Et j'ai envie de commencer par te poser cette question-ci, question en développement. Ça va être une longue question, prépare-toi. Parfait. Parce que voilà, ton premier projet, Bulletproof, est sorti en 2020 et depuis, comme tout est arrivé,
ouais, vraiment beaucoup de choses.
T'as fait les Francouvertes, t'as fait la demi-finale des Francouvertes, t'as fait la finale des Francouvertes, t'as été nommé Révélation Radio-Canada, t'as joué dans de nombreux festivals, et là voilà qu'après tous ces éloges et tous ces lauriers, tu sors ton deuxième album. Est-ce que tu penses que t'es encore et toujours la même Hochelaga Girl malgré tout?
Ouais, vraiment, je pense que je pense aller vraiment dans la même direction. Mais j'ai deux manières différentes d'appréhender le truc. Il y a une partie de moi qui avait des craintes, tu sais, dans le sens, quand ton premier album récolte toutes les fleurs et compagnie, tu sais, t'as peut-être peur que le deuxième, il y a une certaine pression, tu sais, de livrer la marchandise ou, tu sais, de
faire... Une qu'il n'y avait pas au premier album, parce que j'ai l'impression que la zone est sortie, puis c'est après sa sortie que là, les gens ont fait « Ah, c'est qui ça Calamine? Je vais aller voir. »
Exact, tu sais, c'est un truc qu'on a fait, tu sais, comme en toute impunité, en toute invisibilité, tu sais, on était personne, on a fait ça avec pas d'argent chez nous, dans notre appart. Fait que, tu sais, j'ai comme écrit avec une certaine liberté, puis en sachant pas trop, mais en même temps ces distinctions là que j'ai eues au cours de l'année m'ont aussi donné du courage, puis sur certains d'autres aspects j'étais peut-être plus audacieuse dans mon écriture, tu sais, j'ai moins craint, fait que ça a été un peu des deux, tu sais, un peu de crainte de livrer la marchandise, mais aussi l'espèce de petite tape dans le dos que j'avais besoin pour dire non vas-y all in, tu sais.
Ça t'a donné évidemment de la confiance, mais aussi, c'est le genre de choses, puis je pense qu'il y a des gens des fois qui nous écoutent qui sont peut-être pas au courant de comment ça marche, tu sais, le derrière le décor des subventions, et j'ai vu que ton album a été subventionné par le Conseil des arts, donc le gouvernement qui encourage...
Complètement.
Le lesbianisme.
Ah ouais, puis tu sais, ce que je leur ai écrit, tu sais, c'était un manifeste queer, là, tu sais, je leur ai dit clairement, c'était, ben tu sais, aussi, c'est assez transparent dans la musique que je fais, tu sais, j'avais pas besoin d'en rajouter, mais tu sais, je défends cette idée-là qu'on a besoin de promouvoir la diversité dans la culture populaire, puis tu sais, c'est, en 2022, je pense qu'il y a beaucoup de monde au Conseil des arts élites du Québec qui sont bien contentes et contents que ce soit ça qu'on mette de l'avant, puis je pense qu'il faut toujours pousser de plus en plus dans ce sens-là.
Et ce, même si dans ta chanson thème, ta chanson titre, Lesbienne Woke sur l'autotune, tu écorches un petit peu le bloc québécois?
Ouais. Ouais, mais ben, si on peut, on, pour ne pas le nommer, il y a peut-être une tête en particulier que, qui nous vient à l'esprit, là, qui est souvent le premier à arracher sa chemise sur des questions d'agression sexuelle commises par les autres, mais que lui-même ne se remet pas en question. Là. C'est un peu embêtant d'être encore à la tête d'un parti au fédéral.
Je dirais peut-être même qu'il est à la pointe d'un parti au fédéral.
Mm-hmm. Ah ouais, c'est ça! C'est bon!
Mais évidemment, en plus, je lisais sur Jennifer Lopez, c'est peut-être un peu de là que vient cette question-là, tu sais, la fameuse chanson
Jenny from the block. Ah, c'est
t'es encore, t'es encore Julie from the block.
Moi, je pense vraiment ma vie dans un périmètre de genre moins d'un kilomètre de chez nous. Là, tu sais, je fais tout à vélo, à pied. Puis je suis franchement, pour le métier que je fais, à part quand je vais faire des concerts, je suis pas si sorteuse que ça. Je suis vraiment, vraiment une fille de boire ma petite bière sur le porch en lisant un livre. Là, tu sais, pas compliqué. Fait que, tu sais, j'arrive fraîchement à vélo de chez nous sur ma petite galerie tranquillou. Moi, j'aime ça, la petite vie de quartier et tout.
Fais-tu du vélo d'hiver?
Je me le suis fait voler!
Non!
Oui, puis c'est chien parce que ça coûte vraiment cher des pneus cloutés, là. Fait que l'hiver prochain, je me regrette, mais ouais, cet hiver, je me le suis fait voler. La journée que j'ai pogné à COVID, c'était vraiment une mauvaise journée.
Oh my God! Donc, t'as eu la COVID?
J'ai eu ma troisième dose après. Là, j'espère être épargnée encore cette vague-ci, mais tu sais, même dans mon groupe, Arthur, mon clavieriste, il avait ses trois doses, puis il l'a repogné. C'est quand même assez invraisemblable, tout ça.
Ben oui, ben moi, j'ai eu un COVID scare cette semaine, mais là, c'est dimanche, j'étais en contact avec quelqu'un. Le lundi, on me dit, hey, j'ai été positive, mais là, j'ai attendu deux jours à la maison. Ce matin, j'ai fait mon test. Tout est beau.
Magnifique.
Je suis négative. J'ai aucun symptôme. Et je peux venir en entrevue ici même à Choc, ce qui me rend très heureuse. ton album s'appelle donc Lesbienne Woke sur l'autotune, qui est un manifeste de la visibilité lesbienne. Est-ce qu'il y a des fois dans le paysage culturel, tu te sens un peu la seule Gwyn?
Ben, on dirait que maintenant que j'y suis, je me rends compte qu'il y en a plus qu'on pense. Je suis arrivée en ville. Il y a des personnes que j'écoute et que je suis depuis longtemps que j'aurais même pas soupçonné. Puis, grand bien leur face. Moi, je pense pas que tout le monde est obligé d'être porte-étendard de la cause. Puis, c'est déjà assez difficile d'être une femme tout court là, dans l'industrie. Fait que je peux comprendre que tu veux pas en plus faire ton cheval de bataille d'autres différences ou d'autres sources de diversité. Cela dit, ce que moi, j'ai envie de faire, c'est d'offrir une visibilité. T'sais, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup manqué dans ma vie de modèle, d'androgynie ou de queerness ou d'autres propositions, là, franchement, que les rôles genrés stéréotypés, outre l'orientation sexuelle, mais aussi le côté d'expression de genre. Moi, ça me... Ben, peut-être aussi que c'est écrit dans ma face que je suis lesbienne, fait que je suis visible déjà, là, mais je sais pas, moi, je pense que c'est quelque chose qui était... Peut-être, je me sens pas nécessairement seule, parce que je le sais que je suis... Je sais que ça va dans... Je suis épaulée, tu sais, par les autres personnes, que peut-être ça fait bien aussi pour ces personnes-là que le message soit porté si ces personnes-là ne veulent pas nécessairement le porter. Je pense que je suis bien... On est bien quand même tricotés, serrés, malgré tout, tu sais, la communauté queer dans la culture. Donc, je me sens pas nécessairement seule.
C'est vrai que non seulement... tu sais, je trouve que la représentation gay, là, je parle vraiment des hommes homosexuels ici, on en voit beaucoup, on le sait, on en voit en fiction, on en voit à télévision, on en voit au cinéma, ça fait longtemps.
On en voit dans le village en maudit.
On en voit dans le village en maudit, mais c'est ça, c'est le village gay, hein, c'est pas le village lesbienne, c'est pas le village trans, puis j'ai l'impression que la visibilité lesbienne en dehors de, genre, Pornhub, il y en a pas beaucoup, puis la visibilité butch aussi, j'ai l'impression que la représentation butch en dehors de peut-être une joke de petit gars manqué dans une série télé, où sont les butch en culture?
Où sont-elles? C'est vraiment clairement là. Puis c'est ça, on est encore on se lance des fleurs de promouvoir plus de diversité, mais il faut faire attention, on est encore souvent dans des stéréotypes, on est encore souvent dans des chemins faciles, on a encore tendance à parler de par exemple de en tout cas moi c'était plus mettons je pense j'écoute plus vraiment tant la télé là, mais quand j'étais ado, le fameux épisode que quelqu'un fait un coming out dans la série, puis là tout le monde est choqué, ça fait une grande onde de choc, gros drama, puis là, on n'en réentend plus jamais parler, tu sais, on parle juste d'être homosexuel parce que c'est un gros drame, c'est comme une grosse crise identitaire, mais il n'y a pas, genre, quelqu'un gay qui sauve le monde, genre, il n'y a pas quelqu'un gay qui est président ou présidente des États-Unis, tu sais, il n'y a pas de film, il n'y a pas de représentation où les personnes gays font d'autres choses qu'être en crise existentielle.
Ben oui, t'sais. Ben, comme personne trans, mon Dieu, je le vois en maudit, là, j'ai récemment, j'ai envie d'être fâché contre quelque chose, je sais pas, je peux en parler, j'ai récemment écrit un article, en fait, pour un magazine que je nommerai pas sur la représentation trans en fiction, puis dans lequel au passage j'écorchais Christian Bégin puis sa représentation trans dans la série M'entends-tu, qui était super problématique. Puis finalement le magazine en question que je ne nommerai pas, t'sais, m'ont comme renvoyé mon texte avec des modifications, me demandant si c'est correct. Puis c'est surtout comme des ponctuations, fait que je suis comme c'est beau. Puis finalement, quand le texte a été publié, ils ont chop-chop tous mes paragraphes sur Christian Bégin.
Non.
Puis j'étais comme, comment, pourquoi vous demandez à une personne trans de se prononcer sur
si
un enjeu important
entendre.
Si vous voulez pas? Puis qu'au final, le point qui arrive à la fin de l'article, c'est que ben, c'est important de donner la parole aux personnes trans pour parler de transidentité, puis qu'après ça, tu chopes toutes ces choses-là, tu sais.
Ah, c'est
puis
gênant.
J'ai l'impression que quand on parle de diversité, des fois, c'est drôle à dire, mais la diversité n'est pas toujours très diversifiée, tu sais.
Non,
c'est
on comme, a des diversités plus confortables que d'autres.
C'est ça.
C'est comme aussi, tu sais, je fais un parallèle. C'est comme quand on célèbre le fait que le hip-hop est rendu mainstream. Excusez-moi, pardon, le hip-hop blanc est rendu mainstream, là, puis je suis la première à pas me vendre de salade, là. Je le sais que je suis très, tu sais, j'ai une face qui va passer peut-être plus, tu sais, c'est plus facile pour moi parce que je suis blanche, j'ai quelque chose qui peut sembler a priori plus accessible. Je sais que c'est un privilège. Fait qu'il faut faire attention. Tu sais, quand on pense, c'est ça, que la diversité est arrivée au menu, il faut faire attention de voir si on ratisse assez large.
Oui, parce que c'est qui les rappeurs au Québec qui sont big? Tu sais, c'est Fouki, c'est Loud, c'est Coriace.
Ben, exactement. Mais l'autre fois, ben, tu sais, pour vrai, tous les festivals que j'ai fait où j'étais sur les programmations hip-hop, tu sais, dans des festivals plus généralistes, là, pas les festivals de hip-hop, mais franchement, tu sais, on peut pas dire qu'il y avait beaucoup de personnes de couleur, là, sur, tu sais, dépendamment des festivals, il y en a qui se font plus d'efforts que d'autres. Mais, tu sais, pour ne pas le nommer, les têtes d'affiche à Trois-Rivières, la soirée hip-hop, tu sais, on avait pas mal la même tête, là. C'était Calamine, Coriace, Fouki, Soulja, là, tu sais. Puis on me disait, waouh, c'est tellement le fun, en entrevue, justement, c'est tellement le fun, le hip-hop, tu sais, c'est partout et tout. Puis je suis comme, ouais, mais regardez quel hip-hop est partout. Tu sais, il faut y penser à ça quand même. Là.
Puis même si on est en 2022, le fait que, sans parler du fait que t'es, sans parler de ton identité queer puis ces choses-là, le fait que t'es une femme, c'est encore de la diversité, alors que
c'est encore de la diversité.
C'est la moitié de la population.
C'est
là.
Hallucinant, tu sais. Puis tu regardes ailleurs, tu sais, il me semble aux États-Unis, ça fait longtemps là, qu'il y a des femmes qui se démarquent et tout. Puis ici, on est encore au balbutiement de tout ça. C'est assez choquant, tu sais. Il y a quand même quelque chose à se questionner. Là.
Puis les gens écoutent du rap de personnes de couleur. Je veux dire, aux États-Unis, tu sais, Drake, ça marche en tabarouette. Là. Cardi B, Megan Thee Stallion, comme tous ces rappeurs-là sont, tu sais, Kendrick Lamar, ces gens-là n'ont pas de misère à vendre des albums ici même au Québec, tu sais.
Alors qu'on connaît même pas nos propres rappeurs, rappeuses, tu sais, de Montréal, tu sais, noirs, là, voyons, là, c'est tellement gênant. Il y en a tellement, puis ils ont tellement de talent, puis tu sais, ils ont tellement pas, ils arrivent pas à reacher le mainstream, on leur tend pas assez de perches, là.
Mais au moins, je pense au festival à Noce où j'ai été, parce que je trouve ça important aussi des fois de donner comme des bons exemples de festivals
oui,
qui ont une bonne diversité.
Oui, absolument.
Puis à la Noce, il y avait ta bonne amie, Majai Merlin, qui était là. Il y avait Sarah May qui était là, qui est peut-être celle que les gens connaissent un peu plus comme femme noire, je pense, dans le rap. On sait un peu plus c'est qui. J'ai découvert un band qui s'appelait Audi Oasis, puis la chanteuse et bassiste aussi, parce qu'elle jouait de la bass, puis elle chantait, puis elle était tellement, mon Dieu. Mais moi, déjà, de la bass dans la vie, je trouve que c'est tellement... J'adore cet instrument-là. Ouais. J'adore voir des gens jouer ça, tu sais. Puis elle avait comme un sex appeal sur scène. Ça faisait exprès des fois de... T'sais, bouger les pauvres et bouger les fesses au travers, puis à jouer avec ça. Je la connaissais pas du tout, puis ce que je m'en rends compte, c'est que les gens la connaissaient pas. Mais au final, c'était vraiment bon. Puis des fois, ben, si t'as un artiste que tu sais qui est vraiment bon, puis qui est vraiment bon avec le public, tu peux le booker entre deux artistes connus. Les gens vont y aller, les gens vont découvrir de quoi, les gens vont être contents. Puis tu sors du festival, puis je veux dire, c'est cool de voir un band comme Bon Enfant, par exemple, que t'as vu dans 15 festivals, tu sais. Surtout parce que la Noce, j'ai l'impression que c'est un festival de gens qui vont dans d'autres festivals. C'est pas un... T'sais, c'est pas comme le festival du cochon de Sainte-Perpétue, que les gens, c'est leur moment qu'ils vont voir un show, tu sais. Mais même à ça, tu découvres des affaires, puis tu te gardes ça en tête, puis peut-être que Eddie Oasis, dans quelques années, elle va revenir, puis il y a un début de fanbase qui est en train de se créer aussi pour ces gens-là, tu sais.
Complètement. Complètement.
Hey, c'est une grosse avenue qu'on a empruntée, que je pensais pas. C'était pas dans mes notes, ça. Mais oui, voilà, ben, tu sais, est-ce que... On parlait justement de ce que tu te sens seule comme Gwyn, mais t'es une des rares, même s'il y en a beaucoup, puis j'en connais beaucoup, puis évidemment, contrairement à la couleur de peau, c'est quelque chose que... Tu sais, mettons, Sarah May, tu le sais, qui est noire, tu sais.
Ouais, c'est
pas,
ça.
Tu peux pas se cacher, mais tu sais, je connais plein d'artistes. Puis ça, à un moment donné, c'est une réflexion que j'ai dû avoir, parce que mon prédécesseur comme directeur musical, Mathieu Aubre, avait instauré des systèmes de quotas à la station, par exemple, des quotas de gens de couleur, mais aussi un quota queer. Puis à un moment donné, je trouvais ça difficile de... sais, je sais que cet artiste-là est queer, mais est-ce que cet artiste-là l'est ouvertement? Est-ce que j'applique, tu sais, une étendue cet artiste-là queer, tu sais, puis j'ai déjà connu une artiste, par exemple, que je n'aimerais absolument pas, mais que, justement, j'ai compris à un moment donné que son orientation sexuelle puis toutes ces choses-là, mais qui, comme, évitait un peu la question des fois pour ces choses-là, puis c'est vraiment très, très, très correct.
Puis c'est bien correct, c'est ben, ça, c'est exact. Ça.
Mais dans les artistes qui sont très ouvertement lesbiennes, t'es un peu une des rares qui est ici, est-ce que tu ressens une certaine pression d'être la représentation lesbienne, pas juste dans le rap, mais dans la musique, là?
Franchement, ça me dérange pas parce que j'en fais, tu sais, mon cheval de bataille dans le sens j'ai un intérêt intellectuel à cette question-là. J'ai envie, tu sais, dans le sens, je porte ces étiquettes-là pour dire venez m'en parler. Tu sais, c'est pas, je vais pas éviter les questions par rapport à ça, puis ça me lasse pas. Tu sais, au contraire, moi, j'ai vraiment pas envie de venir à une entrevue puis qu'on me demande un souvenir d'enfance, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin, puis c'est quoi ma couleur préférée. Tu sais, j'ai le goût de parler de des enjeux qui me dépassent.
Ah, ça gosse. Pis, j'avais cette question-là, ta couleur préférée.
Tu sais, des affaires de même. Genre, pourquoi tu t'appelles Calamine, là? Je peux-tu vous le dire tout de suite? On peut-tu arrêter de ma pause? Dans le sens, c'est nice, mais c'est correct. Mm-hmm. C'est pas, ça ouvre pas sur d'autres sujets, tandis que parler de la diversité, de la visibilité des personnes queer et moult autres choses, ou d'anticapitalisme ou d'écologie, toutes ces choses-là, je pense qu'on fera jamais le tour de la question puis qu'on devrait toujours les mettre sur la table. Fait que moi, ça me va, là. J'ai un plaisir malin là, à me revendiquer les étiquettes. Il n'y a aucun problème pour moi.
Bien, c'est pas juste une question d'étiquette, puis c'est une question de, d'avoir le sentiment que quand tu parles, vu que tu es comme la seule, c'est comme si tu parlais au nom peut-être de la communauté au complet. Mais alors que la communauté lesbienne, c'est une communauté qui est très, très large.
Exact. Puis franchement, tu sais, autant je vis dans cette crainte-là. Tu sais, d'une part, oui, je me dis, je vais avoir des détracteurs, genre de la droite, tu sais, des gens qui vont me hate, les Mathieu Bocoté de ce monde. Mais il y a aussi une partie de moi qui me dit. Moi, je sais que je suis pas le visage qui va incarner toutes les queerness et toutes les identités, puis c'est pas non plus ça que je veux faire. Tu sais, je veux, oui, moi, je suis une généraliste, je m'intéresse à toutes ces questions-là amplement, puis pas juste à la question butch lesbienne, tu sais, super cernée. Mais il y a quand même le risque. Tu sais, tout le monde n'a pas le même chemin. Tout le monde revendique pas non plus de se réapproprier les termes. Tu sais, puis il y a T'sais, j'ai peur, moi aussi j'avais peur qu'en jouant beaucoup sur genre Gwyn, butch, lesbienne, nanana, sur les terminologies, puis en les détournant, peut-être qu'on allait trouver que j'allais vouloir peut-être trop scinder les choses ou trop nommer les choses, être pas assez fluide, alors que au contraire, tu sais, moi, ma démarche, c'était peut-être plus pour dédramatiser, détabouifier, en rire, puis justement se réclamer d'un peu tout en disant c'est poreux. Les catégories ne sont pas immuables et ne sont pas exclusives, tu sais. Donc, tu sais, moi, j'ai envie de pigrasser dans tout ça, mais donc, j'avais cette crainte peut-être que la communauté queer me tienne rigueur de certaines choses, de mes manières de postuler sur la queerness, et je sais que j'arriverai peut-être pas à cerner toutes les réalités, tu sais.
Puis des fois, je pense que je crois profondément que les étiquettes, tous ces mots-là, tous les mots qui forment LGBTQTI2A+, c'est plus comme des planètes autour desquelles on orbite, autant plus que comme, tu sais, un point précis que
complètement.
Une boîte, c'est juste... C'est le terme qui me ressemble le plus au final, mais il y a personne, je pense qu'il y a personne qui est 100% ultimement homme ou femme ou tu sais,
non,
je
exact,
pense que tout le monde est un peu, il y a des gens qui sont comme 99%, ça se peut, tu sais, mais comme
c'est pas aussi arrêté dans le temps là, tu sais, les identités se transforment avec le temps ou sont, tu sais, c'est pas, faut arrêter de voir ça comme des catégories très tranchées là,
les choses évoluent. Moi, je me souviens la première fois que je t'ai vu, tu avais des cheveux là.
Les choses évoluent là quand même.
Way back avec petite papa.
Oh yes, la petite coupe champignon là. Mais c'était trop d'ouvrage, moi j'ai abandonné.
Mais toi tu rases puis
boum. Ah, c'est vraiment un luxe, surtout l'été comme tu fais chaud comme ça là.
Moi c'est un luxe que je ne connais pas.
Ah, je te trouve courageuse les cheveux longs là l'été là. Oh là, c'est de l'ouvrage. Là.
Ouais, mettons une fille trans avec les cheveux rasés, je trouve ça encore plus courageux.
Ah, c'est...
Genre maudit gros statement pareil là.
C'est vrai, pareil.
Ton album s'appelle donc Lesbian Woke sur l'autotune parce que c'est un hater qui t'a envoyé un message en pensant t'insulter, en te traitant de t'es juste une lesbian woke sur l'autotune. Maintenant que t'as plus de visibilité et qu'on te reconnaît plus, est-ce que t'as l'impression d'avoir plus de haters?
Je vais livrer un grand secret là, mais je ne lis aucun commentaire sur Facebook, jamais. Puis franchement, je consulte pas beaucoup mon Facebook. Là, si vous vous demandez pourquoi je réponds pas, là, j'ai même, sans faire exprès, il y a une réponse automatique. Si tu m'écris sur la page Calamine, ça l'envoie une espèce d'affaire super passif-agressif. Sachez-le, j'ai pas fait exprès, puis je suis pas capable de l'enlever. C'est super passif-agressif. C'est genre « Bonjour, merci de nous avoir écrit. » C'est quasiment genre « Au revoir, point. » C'est comme... Mais donc, je les lis pas. J'ai reçu une menace de me faire péter la gueule par un d'autres de région qui pensait que j'étais un gars gay. Là, vraisemblablement, il m'a dit, mais te pète la gueule, la petite fille. Bon, fait que là, j'en ai pris, j'en ai laissé. Mais cela dit.
Un client du Dagobert.
Ouais, probablement, probablement. Mais donc. Non, pour le moment, je touche du bois, la table, c'est-tu du vrai bois?
Je pense que oui. Ouais, ouais.
Bon, c'est bon. Mais je pense pas que je serai épargnée. Je me trouve chanceuse jusque-là de l'être. J'ai l'impression que peut-être là, cet album-là a plus de retentissement, donc je fais mes push-ups le matin là, en me disant que ça s'en vient tranquillement.
Mais le truc, peut-être, c'est juste de pas lire Facebook, dans le fond.
Ben, je me porte vraiment bien en lisant pas Facebook. Sachez-le, c'est à date, là, ma meilleure thérapie, c'est de pas lire les commentaires sur Facebook.
Bien. Hier, j'ai commenté un truc sur Dave Chappelle sur Facebook. Puis, tu sais, je vois, mettons, le nombre de likes qui augmente. Mais, tu sais, un like, ça n'a jamais le même impact qu'un commentaire. Je veux pas, tu sais.
C'est ça.
Un like d'un inconnu comme un commentaire. Puis, ce commentaire-là a reçu, genre, 68 réponses en dessous, tu sais.
Wow.
Puis comme, c'est tous des gars. Puis je me dis, écoute, Vincent, il n'y a aucune chance que je lis ça. T'sais, est-ce que vraiment, le doute qui arrive, qui voit qu'il y a 67 commentaires en dessous qui m'interpellent,
je te dis,
ouais, genre, ça
faut
va être
vraiment que je mette mon grain de sel par-dessus, là. T'sais, quelle posture étrange. Mais moi, franchement, ça me sidère. T'sais, j'ai tellement l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée. T'sais, je suis tellement... mobilisé par mon ordinateur pour faire plein de choses. Je comprends pas les gens qui passent des heures devant, toutes sortes d'affaires comme ça à commenter. Là, ça me dépasse. Je me sens, des fois, je me sens super boomer. Je me sens dépassée par les réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être d'une autre époque, mais pour le métier que je fais, c'est étrange, mais ça me vient pas spontanément, moi, d'être continuellement relayée puis de commenter toutes les petites affaires à tout le monde. Là.
C'est bien correct. c'est correct de pas être sur TikTok.
C'est ça,
correct,
ouais.
De ne pas être sur Be Real, qui est apparemment le nouveau Snapchat. C'est correct de ne pas être sur Instagram.
Ah oui, Be Real, aussi. C'est quoi? C'est l'affaire, genre une photo par jour? Là?
Ouais. Ah. Ouais, je connais des gens autour de moi qui sont comme, yo, c'est vraiment nice. Puis je suis comme, c'est juste Snapchat, mais comme, là, il y a des adultes sur Be Real, tu sais. Parce que Snapchat, il y a deux types de personnes. Il y a les mineurs, puis il y a les gens qui veulent parler avec des mineurs. T'sais. C'est pas mal ce qui se passe sur Snapchat en ce moment. Là. Mais c'est correct de ne pas être sur Snapchat aussi. Là. C'est correct depuis comme 2016 là, de ne pas être sur Snapchat déjà. <là. rire> C'est correct de ne pas être sur ces choses-là, puis c'est correct de prendre une pause. Puis surtout, c'est correct de unfollow du monde qui te font sentir pas bien, même si c'est juste, genre, je sais pas, une fille qui met des photos d'elle en maillot de bain, puis que fait juste complexer.
Mm-hmm.
Ou genre, tu sais, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui écrit des affaires trash. Ça peut juste être, hey, cette personne-là, tu sais.
Ça, ça ne sert à rien. Pourquoi comme consulter des choses qui ne te servent à rien et qui te font du mal, tu sais?
Mais voilà, allez suivre la page de Calamine en place. Allez donner du reach, même si elle ne le saura pas, dans le fond, parce qu'elle ne va pas jamais voir la notification qui dit qu'elle a des nouveaux followers.
Non, le pire, là, c'est que j'ai programmé mon Instagram pour que quand je poste sur Instagram, ça poste aussi sur Facebook. Fait que j'ai l'air un peu de fider mon affaire, mais tu sais, j'y vais vraiment pas beaucoup, mais c'est parce que j'ai l'impression que. Il y a eu des posts Facebook qui viennent de d'autres pages, puis c'est ça, en fait, c'est quand ça arrive, les commentaires du monde qui me connaissent pas partout, qui voient, tu sais, sur un truc plus généraliste, c'est là où ça fuse, puis c'est vraiment là où ça m'intéresse pas du tout.
Ben parfait, laissez tomber Facebook. J'avais une question, on t'a demandé justement aider à faire un guide pour faire fi des haters, mais c'est juste une question de...
Aller prendre une marche.
Ça, c'est parfait. Merci énormément. Cette entrevue a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Puis il me restait des questions encore. Je voulais quand même donner un shout-out à tes musiciens.
Oui.
Musiciennes Kate Magané, Valérie Lachance-Gamache et Arthur Evenard qui fait les claviers. Également, gros shout-out aussi à Sarah Dion qui joue du drum sur ton album. Ça, c'est vraiment nice.
Mm-hmm.
Voilà, je voulais leur partager de l'amour. Ben, on peut, mettons, en une minute, là. Je sais pas si tu peux me parler un peu de ce trio de musiciens-là qui t'accompagnent sur album et sur scène depuis quand même un moment.
Ouais, quel bonheur, franchement. On est comme une petite famille, là, tu sais. Je pense que personne de nous quatre pensait que ça partirait comme ça, là. Puis, tu sais, ils sont tellement... je pense pas que je serais là. Je pense pas que j'aurais fait tout ça si c'était pas de eux, tu sais. Je pense que si j'avais plus des musiciens à la pige, tu sais, qui prennent pas comme une charge émotionnelle dans le groupe. Mais là, le fait qu'on est une petite famille, ça me donne le courage d'aller sur les grosses scènes, tu sais, les Franco et tout. Tu sais, je pense que c'était toute notre... Mais les Franco, surtout, l'année passée, on était sur la grosse scène. C'était notre première vraiment plus grosse crowd, là. Puis, tu sais, je me souviens, on s'était tous pas trop dit qu'on était nerveux, tu sais. On se l'est juste dit après en mode, ouf, on a fait ça, hein, tu sais.
En fait, tu veux pas stresser stresser les autres en disant que t'es stressé, mais
non, c'est ça, on le gardait tout, on voulait pas stresser les autres, tu sais, mais grand shout-out à eux, là, je les aime tellement, puis c'est un charme, en plus, en sortant d'ici, je m'en vais jamais avec eux autres, puis... C'est que de l'amour.
Parfait. As-tu bien des concerts annoncés qui s'en viennent?
Ce vendredi, on est au FEC à Québec.
Oui.
Le 6 août, on va être à la Pride au Stade olympique. Puis ensuite, ça va aller... on fait une sortie de résidence avec Kate Magané au FME. Dans le fond, on a travaillé avec deux artistes de Marseille. Donc, on va présenter un petit truc un peu fucked up. Là, franchement, on n'est pas sûr encore que ça va avoir l'air, là, mais attendez-vous pas à un show de Calamine standard.
Mais parfait, parce que le show de Calamine standard, je l'ai vu l'année passée. Ariane Moffat, avais-tu réussi à rentrer finalement? Parce que je pense qu'elle avait de la misère à rentrer à ton show.
Carnage, elle n'a pas réussi à rentrer. C'est parce qu'elle était comme une petite gang puis il n'y avait plus de place. Mais en plus, les bénévoles sont venus me dire « On a reviré de bord Ariane Moffat. » J'étais là. Non seulement, vous l'avez viré de bord, mais en plus, vous me le dites, vous êtes tellement cruel.
Ben oui, c'est comme c'est la seule artiste vraiment mainstream qu'on le sait en plus... qui est lesbienne.
Elle a ouvert la voie, là, tu sais, on lui envoie un méga shout-out de toutes les petites personnes queer à cette époque qui cravaient tellement de trouver de la visibilité, là. Vraiment, ça a été ma première figure dans la musique québécoise et je l'aime beaucoup.
Mais on va dédier la prochaine chanson à Ariane Moffat, qui est la officielle Gwen, je pense, la OG
des
OG.
Yes, la OG des OG.
Merci beaucoup, Calamine.
Merci à toi.
Vous écoutez le palmarès à Choc. Calamine qu'on vient tout juste d'entendre avec Officielle Gwen, une chanson que j'avais très hâte, mon Dieu, qu'elle sorte. L'année dernière, j'étais au FME, elle avait joué et j'ai eu tellement beaucoup de plaisir. Je suis contente d'enfin avoir accès à cet album Lesbienne Woke sur l'autotune de Calamine. Excellent album. Allez l'acheter sur Bandcamp. Un jour, peut-être sortira-t-il sur vinyle, sur cassette et sur CD, mais pour l'instant, écoutez cet album-là. C'est très, très bon. On va écouter deux nouveautés et juste après, on aura Of Course en entrevue. On va avoir, entre autres, Young Fathers qui ont sorti une chanson cette semaine qui s'appelle Geronimo. Grosse, grosse track. Je pense qu'on va commencer avec celle-là parce qu'elle est un peu plus douce. Puis après ça, elle monte un peu en intensité. Et après ça, on va avoir, mon Dieu, mon album préféré en ce moment. Party Dozen, un duo australien. Surtout instrumental, je dirais, qui vient de faire paraître l'album The Real Work. C'est un album qui est très, très, très bruyant. Un genre de noise rock post punk, free jazz, expérimental, genre. Dans le groupe, officiellement, il y a deux membres, un qui joue la batterie et une qui joue du saxophone avec beaucoup d'effets, et qui, des fois, chante dans son saxophone avec beaucoup d'effets. Et quand je dis chante dans son saxophone, c'est vraiment, on enlève sa bouche dans le fond du bec, elle va dans l'ouverture en bas, se rentre la tête dedans et commence à chanter au travers. On comprend rien quand on chante, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Mais sur la pièce qu'on va écouter, qui s'appelle Maca the Mutt, il y a à la toute fin Nick Cave, le Nick Cave, qui débarque à la fin pour crier à peu près n'importe quoi. Bref, ça défoule, ça fait sortir le méchant. J'adore ça. On va écouter ça, mais juste avant, Young Fathers avec Geronimo. Vous écoutez le palmarès à Choc.
Off the table, see the hell on the
voilà Party Dozen qu'on vient tout juste d'entendre ici au Palmarès. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille pour une première fois dans nos studios le groupe Of Course. Comment ça va?
Ça va bien.
Oula, ce micro ne marche pas terrible.
Mais sinon ça va. Le mien marche très bien, regarde.
Le tien marche très bien.
Le mien marche parfaitement. Je pense qu'il y a sabotage
Pour toi,
Willy.
C'est le micro 3 qui est en ce moment, mais je l'ai spoté, garde-le, il fonctionne bien. Tantôt, j'ai remarqué avec Calamine que le micro 2 est à la place du micro 3. C'est un peu une tradition, je pense, au palmarès d'arriver, puis que les micros, c'est un peu difficile à comprendre ce qui se passe. Ben, que voulez-vous, hein, ça, c'est le problème du directeur général de choc, ce n'est pas le vôtre.
Et non, c'est vraiment pas le mien.
Will Morer.
Morer, quand même.
Morer et Émile Tempère, oui. Deux noms, famille d'enfants qui riment ensemble. C'est votre première fois à Choc en tant que Of Course. Mais évidemment, Will, c'est pas ta première fois dans les bureaux de Choc. Je pense que tu savais très bien comment te rendre ici.
Ouais, je suis venu une couple de fois.
Ancien directeur général de la station, mon ancien patron.
Je connais tous les comptes.
Et voilà, tu connais tous les mots de passe. Ça dépend desquels, on a changé le mot de passe sur
Instagram.
Les mots
de passe, les comptes.
Il y a le mot de passe, voilà. Ouais, j'ai vu que j'avais plus accès au mot de passe d'Instagram de Choc. Je suis un peu déçu, mais écoute, c'est comme ça, faut savoir lâcher.
Ben tout à fait, ben oui, mais non, parce qu'au final, t'es quand même revenu dans les bureaux quelques semaines après ton départ comme directeur général. Te voici donc maintenant en tant que musicien, en tant que membre de Of Course, le groupe qui roule depuis quand même pas mal toute ta carrière de directeur général à Choc.
Exactement. Et c'est vrai que c'est le fil rouge. J'ai commencé en 2014 à Choc et Of Course date de 2014.
Et là, est-ce que, tu sais, évidemment, nonobstant tout ton amour que tu avais pour le poste, est-ce que ça fait du bien de pouvoir enfin présenter ton projet musical officiellement ici à Choc et d'être dans le palmarès?
Et ça fait du bien et ça fait bizarre parce que y a en moi toujours l'impression d'un espèce de conflit d'intérêt, mais non, il y en a plus. Donc je suis tout à fait à l'aise avec ça. Ça fait du bien, enfin.
Et toi, Emile, est-ce que ça fait du bien? Toi qui avais, c'était pas de ta faute dans le fond, Of Course.
Non, moi j'attendais depuis des années d'enfin pouvoir venir ici. Je pense que je suis même pas venu avec d'autres projets qui ont joué sur les ondes ici, mais ouais, merci de nous recevoir.
Ben, ça fait vraiment plaisir. Évidemment, on vous reçoit pas juste pour parler du bilan de Will comme directeur général, mais bien pour parler... Non, on ne parlera pas, ça c'est correct. On va parler, par contre, évidemment, de l'album Montréal Bagarre 2. Parce que vous n'aviez pas trouvé un autre nom, fait que vous avez pris celui de votre album d'avant.
Parce qu'on pense, on croit très fort en la trilogie.
Ouais. C'est une trilogie. En fait, Montréal Bagarre, c'est... ça parle, comparé à ce qu'on avait fait avant ou ce qu'on fera sans doute après, Montréal Bagarre, c'est les textes un peu plus intimes, c'est les textes qui parlent de nous, et puis c'est les albums qu'on a composés à deux avec Émile. Donc on avait fait le premier EP qui était Montréal Bagarre 1, le premier EP qu'on a fait à deux, et c'est la suite en fait, c'est ce qui s'est passé après, c'est une espèce d'ouverture de cœur, d'ouverture d'âme. Et dès la première note qu'on a composée pour cet album, on savait que ça allait être Montréal Bagarre 2. Ouais.
Tu vois que le gars a préparé son interview parce que ça faisait longtemps qu'il voulait le faire ici à Choc.
J'aurais pu te demander quelle question tu voulais que je te pose. Des fois que je vais te décevoir, mon Dieu, je parle de Steve Bégin maintenant. Ok, parce qu'évidemment, comme le grand Steve Bégin, bagarreur pour le Canadien de Montréal, et qui est pourtant un homme au cœur sensible, au cœur doux. Montréal Bagarre est un album qui est quand même plein de dualité. C'est un album qui, oui, qui a des paroles qui sont plus vulnérables, mais qui a des beats en arrière aussi. J'ai cru comprendre d'ailleurs que les paroles et la musique, en fait, n'ont pas été faites du tout en même temps.
Non, vraiment pas en même temps. C'est comme ça qu'on compose. Actuellement, je suis en train d'essayer de changer de recette. Mais ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on part en chalet et on compose beaucoup, beaucoup, beaucoup de beats. Et les paroles viennent après. Pour moi, le Bagarre 2, ce qui est assez spécial, c'est qu'on a commencé à composer les beats. C'était même pas encore la pandémie.
Non, c'est vrai. C'était en 2019 qu'on a fait ça, ouais. Qu'on a commencé le processus.
C'est ça.
Avec pas le temps.
Exactement, c'était pas le temps, la première qu'on a faite. On a vraiment beaucoup travaillé sur les beats. Bizarrement, en été, on est meilleur en été. En ce moment, on y va souvent au chalet, mais on est meilleur pour composer l'été, pour faire la musique. Et les textes, bah, je les ai écrits la plupart, on était confinés et j'allais pas forcément bien. Et donc, du coup, ça fait cette espèce de dualité entre un beat qui bouge vraiment beaucoup et des paroles qui sont super sombres. Parce qu'il y a eu peut-être un an d'écart entre le beat et le texte.
Mais c'est ça, j'ai cru comprendre que les paroles ont été composées... la musique a été composée en été, les paroles ont été faites en hiver, donc est-ce que ça donne un album de printemps?
ou d'automne.
Ou d'automne, moi, mais il est sorti au printemps.
Il est sorti au printemps. C'est vrai que c'est bien pour ça, mais c'est, il aurait pu sortir en automne aussi. Je le trouve très automnal comme,
comme album. Ça dépend des chansons.
Ouais, ça dépend vraiment des chansons.
Parce que moi, je sais quand est-ce qu'elles ont été composées et écrites, donc pour moi, elles ont toute une certaine signification. Peut-être que les gens auront leur propre signification et attribueront une saison à chaque, à chaque chanson.
C'est officiellement, l'album, son signe astrologique du Zodiac, c'est le taureau.
Okay. Ouh, ouais, parfait, c'est bien ça. Tough, ça. C'est bien. Enfoncer les murs. Ça.
Ouais. J'ai des super amis, amis eux, taureaux.
Ouais. Ouais. Moi, mon père est taureau.
Ah ouais.
Voilà. Aussi, bon. Donc je connais ce genre d'animal à cornes.
Mais pour un album aussi qui s'appelle Montréal Bagarre, tu sais, un taureau, c'est le genre d'animal qui est capable de se défendre aussi, je crois là.
Ouais, c'est vrai.
Plus que si l'album c'était poisson là.
Ouais.
Ça flopperait un peu là.
Non, c'est ça. Mais nous on a un animal totem en plus, c'est pas un animal du zodiaque.
Mais zodiaque chinois peut-être.
C'est le,
c'est le cheval.
C'est le cheval.
Le cheval. Ouais. Oui, c'est ben oui, mon dieu, c'est vrai le logo, je vois tout le visuel en tête avec le cheval.
C'est encore plus poussé que ça dans toute pochette dans toute pochette d'Of Course, il y a un cheval caché.
Ah oui.
Ouais. Ouais.
J'en avais aucune idée.
Et voilà.
C'est parce qu'on a fait ça très
c'est notre private joke.
Low-key, ouais.
Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur votre page Bandcamp où il y a beaucoup, beaucoup de sorties. J'imagine que c'est juste les albums en fait plus récents-ish avec le...
Non, non, depuis le day one.
Depuis le day one, même la pochette avec les trois personnes qui font du ski ensemble.
Exactement, il y a un cheval qui est caché.
Ah ouais, pourquoi?
Ça vient du fait que, avant de partir au Canada, on a fait une... Je pense que la vraie histoire, c'est que j'ai toujours voulu faire une séance photo à cheval sur un cheval. Voilà. Et j'ai jamais pu le faire parce que pour des raisons évidentes de budget ou de disponibilité de l'animal. Et en fait, quand on commençait à faire des pochettes, j'étais genre bah on n'a pas d'idée, pourquoi pas mettre un cheval comme ça, j'aurais enfin fulfill mon crève équestre, voilà. Et on a commencé à en mettre discrètement avec Marie-Pierre, notre graphiste. Et on a toujours réussi à en cacher un quelque part. Et à mon plus grand bonheur, à chaque fois, d'essayer de trouver le cheval dans la pochette.
C'est ça. Il y en a des moins subtils. Hein. Le logo de Montréal Bagarre est un cheval, donc c'est sûr que c'est pas subtil.
Mais il y en a qui sont vraiment bien cachés.
Il y en a des très très bien cachés.
Et là, maintenant, évidemment, vous n'êtes plus un groupe indépendant. Peut-être que Create Records pourra vous financer de nouvelles photos de presse sur un cheval.
Ah, c'est possible, mais...
Moi, je mets un grand prix équestre à mon nom.
Est-ce que toute l'équipe en a envie? Je sais pas.
Mais c'est...
Moi, j'ai eu un mauvais passé avec un cheval une fois. Je me suis pris un coup de sabot dans le dos et j'ai été alité pendant 2 semaines. J'ai un peu peur des chevaux.
Bah, mais moi, je savais pas ça, là. Tu vois? C'est la première interview, j'en apprends des choses.
Ben là, il faut communiquer, les garçons.
J'étais jeune.
Mais peut-être qu'un jour même que Of Course sera un groupe sonorité équestre, tout à fait. Des influences americana, des influences country au travers. Non? Peut-être qu'une fois Montréal Bagarre 3 de côté, ce sera le temps de faire votre album country.
C'est ça.
Les chapeaux, les bottes, la chemise à carreaux.
Exactement.
Mais moi, Montréal Bagarre 3, je voudrais que ça soit Montréal Bagarre dans l'espace, pour faire un hommage à la série Z de Machete. Où le Machete 3 devait être dans l'espace, mais je crois qu'Emile n'est pas trop chaud.
Non, pas tellement, non. J'aimerais qu'on passe à autre chose rapidement après.
Mais on peut parler d'un autre sujet que les chevaux. Moi, j'aime beaucoup parler des chevaux, évidemment. J'aime parler d'animaux. D'ailleurs, vous êtes sur une skate qui s'appelle Coyote Records aussi. Il y a ça qui se passe, tu sais.
C'est pour ça.
Mais on peut peut-être parler un peu plus de l'album en tant que tel plutôt que parler de ce qu'il y a autour, parce que c'est un album où il y a des paroles qui sont très, très vulnérables. Toi, Will, tu te déshabilles émotionnellement sur cet album-là. Est-ce que c'était intimidant de juste ouvrir ton journal intime de la sorte pour tout le monde?
Oui et non. Ça a été, en vrai, ça a été beaucoup de prise de tête avec moi-même. Ça se sent un peu dans l'album. Je me suis beaucoup posé de questions en me demandant si je faisais bien de faire ça ou pas bien de faire ça. Il y a des choses assez intimes sur moi, sur la grossophobie par exemple, et certaines choses que j'ai pu vivre avant. Et je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je sors ça, est-ce que je sors pas ça. Les gens autour de moi qui avaient déjà écouté les chansons, il y en a certains qui me disaient, Est-ce que t'es prêt à être porte-parole de ce de la cause, des choses comme ça? Ben en fait j'ai réfléchi, mon but n'est pas du tout d'être porte-parole de la grossophobie. Moi ce que je voulais c'était donner un témoignage, et un témoignage du présent, de ce que je vivais quand j'écrivais. Donc ouais, c'est sûr que c'est un petit peu bizarre de se mettre à nu comme ça, mais c'est salvateur, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien et c'est.
Oui, puis ça permet aussi aux gens de s'identifier à ce que toi tu vis. Hein.
C'est ça.
C'est le principe de la musique aussi.
C'est ça. Et puis avec la pandémie, je pense que des chansons comme L'Enfer, par exemple, parce que pendant la pandémie, j'ai fait un burn-out et ça m'a marqué. J'étais vraiment mal. Bah, Emile m'a vu quasi au quotidien pendant cette période. Ça me faisait du. En fait, la seule chose qui me faisait vraiment du bien, c'était d'écrire. J'arrivais plus à vraiment faire de musique. Par contre, c'était assez spécial. J'étais arrivé à un stade où je n'arrivais plus à rien faire de musical. Mais par contre, j'écrivais énormément de choses et tout ce qui me passait par la tête. Et j'ai réussi à en combiner certains. J'ai jeté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses parce que je voulais pas non plus. Je voulais pas me plaindre. Et je pense que c'est pour ça que j'assume aujourd'hui ce que j'ai sorti, parce que c'est pas ça se veut pas en tout cas un album qui se plaint de ma
situation. C'est pas un album de pitié.
Non, c'est un album de constat.
C'est un album de constat. Vraiment, c'est ouais. Vraiment pour donner le pouls de comment je me sens, comment je me sentais, et beaucoup de réflexions sur des choses. Tu vois, la grossophobie, par exemple, dans N'oublie jamais, c'est des réflexions sur. C'est pas le fait de regarder, j'ai été gros, j'ai eu une enfance pas facile à cause de ça, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont eu des enfances pas faciles à cause de beaucoup.
Et pas que des enfants.
Beaucoup de sujets, et pas que des enfances. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses pas faciles. Moi, c'était plus le constat de dire, bah, il y a une partie de moi qui est assez fuckée, assez bizarre et qui a des réactions assez bizarres sur certaines choses, et je sais que c'est dû à ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Donc c'est plus un espèce de constat en n'étant pas forcément ah mon Dieu, j'ai été victime de grossophobie, mais plutôt je suis comme ça parce que j'ai été victime de grossophobie.
Oui, il y a aussi ce thème-là de vouloir s'échapper qui revient beaucoup aussi au travers du disque, cette idée-là de vouloir aller vivre des choses, de vouloir sortir de son endroit, de vouloir, ben, peut-être que c'est pour ça que Moral Bagarre 3 se passera dans l'espace à force de faire autant de chansons sur le goût de sacrer son camp.
C'est difficile
d'aller plus loin que l'espace même.
N'encourage pas trop.
As-tu la belle photo de la NASA?
Ouais.
Ah oui,
ouais, moi j'ai vu.
Ouais, incroyable.
J'avais une version aussi avec Alf qui était caché dans le dans la photo, c'était extrêmement drôle.
Existait une version où il y a un cheval de caché dans la photo aussi, qui sait.
Peut-être.
Peut-être que si tu relis les bons points, tu peux dessiner.
C'est peut-être ça.
Il y a pas une galaxie de la tête de cheval d'ailleurs aussi. Ouais, c'est ça. Bon, on n'invente rien malheureusement. Là.
Sinon, là, votre album est sorti, mais est-ce que vous allez faire des spectacles aussi? Parce que là, vous êtes plus juste deux sur scène. Là. Vous avez un groupe complet.
Une vraie team maintenant. Là. Donc oui, on a des spectacles qui s'en viennent cet été. On a intégré de nouveaux membres. Donc on a Jeanne Gagné qui est la guitariste pour nous et qui est la deuxième, une des moitiés de Mocha. Et on a Théodore Douskas qui est le batteur, bah, notre batteur, et aussi qui joue pour Lions of Athens, et sa sœur Catherine Douskas. Puis là, monsieur est en train de se la couler douce à Los Angeles en ce moment. Et oui, effectivement, on a des shows, mais plus dans la deuxième partie de l'été.
Voir la fin de l'été.
Ouais, septembre, octobre.
Début d'automne.
Voilà.
Est-ce qu'il y en a là-dedans qui ont été annoncés, dont vous pouvez nous parler? Ou est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été annoncés?
Pas annoncés.
Il n'y a rien d'annoncé. Ce qui est sûr, c'est qu'on a dû reporter le lancement qui était initialement le 26 mai. On est en pourparlers sur plusieurs dates. Parce que on va sortir quelque chose de nouveau qui n'est pas de la musique ni un clip. On en parlera en temps voulu, mais on travaille assez fort là-dessus et il y a énormément de guests dessus qui vont de certains membres de l'AF à Kiroak, à Xela, à Virginie B. Il y a plein de monde qui sont impliqués dans ce projet-là. Et en fait, on a repoussé le lancement parce qu'on voulait se concentrer là-dessus et faire un gros lancement de ce projet.
On voulait que tout soit prêt.
On voulait que tout soit prêt.
De ce projet mystère.
De ce projet mystère, ouais, qu'on appellera, qui est lié à la bagarre quand même, qui est intimement lié à Montréal Bagarre.
Est-ce qu'il y a un nom de code pour ce projet-là?
projet bagarre.
J'adore ça parce que moi, je le sais, c'est quoi le projet bagarre. En plus, je trouve ça difficile de ne pas pouvoir en parler et que tu mets les bâtons dans les roues comme ça.
Non, c'est ça. On peut toujours pas en parler. C'est quelque chose qui sera interactif. Voilà, c'est interactif. Les gens, ça va être participatif. Tout le monde va pouvoir participer. Ça va être assez. Je pense que ça va être quand même assez cool. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de pouvoir en parler. Mais pour l'instant, on est un petit peu tenu au secret.
Ça paraît en tout cas que t'as hâte d'en parler. À force de... On dit qu'à chaque nouvelle phrase, il y a un nouveau.
Ils s'en rapprochent à chaque fois. Hein.
Non, mais je l'ai pas dit comme ça légalement. Il n'y a aucun avocat qui peut m'attaquer.
Avez-vous déjà eu des problèmes judiciaires avec Of Course?
Non, aucun.
Vous respectez la loi?
On respecte la loi.
En dehors d'Of Course, on s'est jamais fait attraper, mais.
C'est ça.
Parfait. Est-ce que, sinon, évidemment, t'es arrivé tellement. Préparé, Will. Emile, un peu moins, là, un peu plus en background depuis tantôt. Là.
Moi, je vais avec le flow, moi.
Donc. C'est parfait. Mais là, avec le peu de temps qui nous reste, est-ce qu'il y avait une chose que tu voulais, que vous vouliez absolument dire aux auditoristes de Choc?
Que déjà, merci beaucoup d'écouter les ondes de Choc. C'est un plaisir.
On est sur le web, il n'y a pas d'ondes.
Oui, c'est vrai.
Le mec est un ancien ingénieur.
Il y a vraiment de savoir. Qu'est-ce qu'on a à dire? C'est un merci déjà à tous ceux qui nous écoutent. C'est assez, dernièrement, c'est assez spécial ce qui nous arrive. On a vécu beaucoup d'émotions. Le groupe a vécu beaucoup d'émotions, certaines négatives dont on évitera de parler parce qu'on va pas parler des personnes qui ne méritent pas qu'on en parle. Mais positives aussi depuis la signature avec Coyote. On aurait aimé avoir plein de. En fait, le timing a été un petit peu difficile et a pas joué dans notre faveur pour avoir beaucoup de choses cet été, mais on vous invite à écouter l'album
et à nous suivre sur les réseaux.
Et à nous suivre sur les réseaux parce qu'on sera de retour en pleine forme pour la rentrée.
Votre nom Instagram
c'est Of Course MTL comme Montréal.
Parfait. Bien, merci énormément Émile et Will. Je peux pas encore t'appeler William, je trouve que ça fonctionne pas.
Mais non, mais de toute façon, on m'appelle Will.
Parfait. Et sur ça, on va écouter ma chanson préférée, chanson sur laquelle, mon Dieu, William, tu as un flow absolument impeccable. Je comprends pas comment tu fais pour dire toutes ces syllabes.
Voilà. C'est mon amour des jeux de combat. J'imite des mitraillettes. Non, je rigole.
Et sur ça, ça va être pas mal la fin de l'émission. Mon Dieu, je vais faire jouer des chansons du numéro 1. Numéro qu'on aime beaucoup, La Fièvre, avec l'album Tu ne les as jamais entendu crier, mais il crie. Également, Lakely 47. C'est au numéro 1. On n'aura pas le temps de les écouter, mais on aura toujours le temps quand même d'écouter au complet la chanson L'Aventure de Of Course. Merci encore une fois.
Merci énormément. À toi.
Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une autre édition du Palmarès.
stop.